Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Impertinentes. Jamais une chanson ne m'avait autant fait pleurer que celle-ci. Je vais ménager le suspense, c'est un titre de Laurie Darmon, mon invitée de la semaine. Laurie est chanteuse, compositrice et elle a survécu à une longue période d'anorexie. Elle en parle dans une chanson bouleversante intitulée Mai 2018 et nous abordons ensemble cet épisode de sa vie. Si vous êtes vous-même touché par l'anorexie mentale ou que vous avez dans votre entourage une personne souffrant d'anorexie, vous trouverez des ressources dans les notes du podcast. Bien sûr, on ne parle pas uniquement de ce sujet. Laurie Darmon me raconte son rapport à la musique, à la création, à la liberté. Cet entretien avait été enregistré en amont de la sortie de son nouvel album, Femme Studio, et je te donne rendez-vous sur ses réseaux sociaux pour la retrouver en concert dès cet été, je l'espère, lorsque la crise du Covid-19 sera derrière nous. Je vous laisse en compagnie de Laurie Darmon. Bonne écoute. Bonjour Laurie.
Bonjour Clémence.
On se tutoie alors qu'on vient de se rencontrer. Mais en réalité, j'ai écouté tes chansons et je pense qu'aucune chanson ne m'a jamais fait pleurer comme Février 91.
Oh.
J'ai essayé de la réécouter en venant.
D'accord.
Et bon, ça ne se voit pas parce que c'est de l'audio, mais j'ai un make-up de folie. J'étais là, stop. J'ai dû faire pause à une minute.
Ah là là, c'est dingue. Ça me touche beaucoup.
Tu as une poésie incroyable dans ta musique, vraiment.
Merci.
Et donc, c'est Mathieu avec qui je travaillais avant. Mmh. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui, mmh, mon précédent job, qui m'a envoyé ton contact et ton travail.
Mmh.
Et je suis tombée instantanément amoureuse de tes chansons.
Wow.
Donc j'ai vraiment eu envie de te proposer de répondre aux impertinentes.
Ouais.
Merci beaucoup pour ça.
Ça me touche beaucoup, beaucoup.
Alors la première question en général, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Je suis autrice, compositrice, interprète. Voilà.
C'est ton métier. C'est ton métier à temps plein ?
En tout cas, là tout de suite, oui. Je crois que c'est un métier dont on ne sait jamais combien de temps il va durer. Hein. Mais là tout de suite, oui. Et je me bats justement pour que ça puisse devenir un métier sur le long terme. Donc voilà. Mais en gros, dans la vie, j'écris et je fais de la musique. Et voilà, je fais de la création, quoi.
Comment ça t'est venu ? À quel moment de ta vie tu t'es dit « je vais faire ça, je vais devenir autrice, compositrice, musicienne »
Oh bah ça, c'était un long processus. Je me suis jamais dit ça de manière consciente. J'ai toujours un peu chantonné et j'ai fait du piano. J'ai commencé le piano quand j'avais 5 ans. Puis j'ai commencé, après j'ai fait de la guitare, de la batterie, j'écrivais et j'ai commencé à écrire des chansons vers mes 16 ans, mais j'ai jamais formulé ce vœu d'en faire un métier. Et en fait, en poursuivant des études après mon bac scientifique, j'ai fait des études de droit. Et ben petit à petit, il y a une frustration énorme qui a grandi et qui me paralysait et que j'ai analysé. Et j'ai compris en fait que c'était beaucoup dû au fait de pas faire ce que j'avais profondément envie de faire. Donc voilà, après ça a été vraiment dans le cadre d'un long chemin, parce que le fait de pas faire ça, de pas prendre cette place là, ça m'a même rendu carrément malade et tout ça. Donc voilà, c'était pas inné en tout cas de dire non, je vais faire de la musique. Non, c'était pas simple.
C'est effectivement l'impression que j'ai eue en écoutant plusieurs de tes chansons, que c'est quelque chose... Enfin, d'habitude, je demande d'où vient l'inspiration, mais là, j'ai l'impression que ton inspiration, c'est un truc qui t'a dépassé. C'est une force qui vient de tellement loin que si ça s'exprimait pas, qu'est-ce que tu serais devenue ?
Ouais, bah c'est un peu ça. Et c'est marrant que tu dises ça, parce que ce matin, je me réveillais en disant... Je faisais mon lit en même temps, je me disais « je crée mon propre drame ». Et j'avais un peu cette impression que finalement, ce que j'ai à dire ou ce qui m'anime vraiment, c'est quelque chose que j'ai auto-fécondé en termes de problématiques, d'une certaine manière. Comme si très petite, j'avais eu peur de manquer d'intensité et que je m'étais quelque part mise dans des situations qui allaient me faire m'obliger à cracher des choses. Voilà. Bref, c'était ma réflexion de ce matin, donc ça va à peu près avec ça. Mais oui, c'est une inspiration qui me dépasse dans la mesure où c'est une question de vie ou de mort quelque part. Et si ça sort pas, ça, j'implose très fort.
On va en parler, j'espère, mais une autre chanson qui m'a énormément touchée après Février 91, c'est Mai 2018.
Oui.
Il y a une phrase dedans, notamment, que je trouve... c'est presque un slam, parce que c'est presque de la poésie sur de la musique, c'est magnifique.
Merci.
Et il y a plein de phrases qui sont très belles et très puissantes. Il y en a une qui est à la fois... Enfin, qui est terrible, je trouve, c'est la phrase que tu prêtes à tes parents. Elle a tout pour être heureuse, qu'est-ce qu'elle nous fait merde. Est-ce que c'est une vraie sensation que t'as eue?
Oui,
tout pour être heureuse.
Bah oui, beaucoup. Je m'en suis beaucoup voulu de pas me sentir épanouie dans une vie où il y avait rien qui pouvait me faire me plaindre, qui pouvait justifier de se plaindre. Et ça, je pense que ça c'est un vrai problème. En général, et qui va plus largement avec plein d'autres choses dans la société, mais c'est très difficile de cantonner les gens à des choses plus ou moins matérielles ou quantifiables ou en tout cas concrètes pour jauger leur capacité et leur aptitude à être heureux. Ça, je trouve ça terrible. Et en vrai, moi, en tout cas, dans mon cas, je me sentais assez enfermée là-dedans parce que j'étais bonne à l'école, j'avais un toit, des parents qui étaient encore ensemble, un petit frère, des copains, copines. Enfin bon, voilà, sur le tableau, il ne pouvait pas y avoir de problème facile à expliquer. Pourtant, moi, je ne me sentais pas heureuse, mais pas tout le temps, évidemment. Hein. Mais en fait, c'est juste que dans les moments où je ne me sentais pas heureuse, il y avait c'était pas par contrariété de quelque chose. C'était comme des sortes d'infini néant, tristesse qui venait m'habiter et qui était trop intense. Mais... Donc oui, cette phrase, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti et que j'ai expérimenté parce que même auprès de mes parents, si jamais je me plaignais, j'étais pas comprise. Voilà.
T'avais un sentiment d'ingratitude ?
Non, pas spécialement, je crois pas. Je crois pas que j'avais un sentiment d'ingratitude, mais en tout cas, j'avais un sentiment d'incompréhension, quoi. Quelque chose qui, du coup, me faisait flirter bien beaucoup avec la solitude.
Alors, il y a toute une partie de l'interview que normalement j'aborde plutôt vers la fin, mais j'aimerais qu'on commence par là si ça ne te dérange pas, parce que c'est au pied du mur et c'est sur tous les obstacles qu'on a à dépasser. Souvent, quand on est en plus une femme jeune, dans la vie des obstacles, on en a plein. Mais toi, il y en a un qui était particulièrement rude, en tout cas, ça s'en ressent dans tes chansons. Alors, je te pose la question, est-ce qu'il y a eu une épreuve qui t'a particulièrement marquée dans la vie et comment t'en es sortie ?
Oui. Ouais, je pense que cette épreuve, c'était l'anorexie mentale que j'ai vécue, qui m'est arrivée quand j'avais 17 ans. Et c'est une épreuve qui m'a marquée parce qu'elle a été très longue et que je savais pas. J'ai pas su la reconnaître tout de suite. Ensuite, j'ai pas forcément su comment s'en sortir. Et après, j'ai pas su que j'étais pas encore guérie. Enfin, c'est un truc qui était. Voilà, qui était hyper, hyper opaque et pourtant très présent. Et en fait, c'est très récent que je puisse déjà en parler et en plus en parler au passé, en fait, un peu assez sereinement. Mais d'ailleurs, au passé, mais enfin, je crois que c'est quelque chose qui reste toujours une menace qui plane quelque part et qu'il faut rester vigilant. Mais oui, ça c'est une épreuve importante dans ma vie et à la fois c'est terrible de dire ça, mais je crois que c'est un vrai cadeau aussi en fait, parce que si mon corps n'avait pas réagi, j'aurais peut-être pas fait ce que j'aimais dans la vie et il y a plein d'autres choses que j'aurais pas découvertes en fait. Donc Et puis ça a été un très grand moment d'introspection et ma vie intérieure a été très enrichie par cette épreuve, mine de rien, parce que ça m'a obligée à réfléchir beaucoup et à me pencher sur à m'écouter à l'intérieur de moi. C'était magique, en tout cas, entre soi et soi-même, c'est un beau voyage. Mais c'est aussi la guerre, mais c'est aussi un très beau voyage et un très beau... Une très belle richesse intérieure que ça peut procurer et tout ça. Donc ça, c'était une belle exploration. Voilà.
T'en parles avec beaucoup de recul et de maturité. Je suis heureuse d'entendre que t'en es sortie et que c'est une expérience dont tu retires en plus du positif.
Ouais.
Parce que c'est par ailleurs quelque chose d'absolument terrible dont certaines personnes ne survivent pas.
Bien sûr. Ouais, complètement.
Je voudrais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent. Quand on pense à l'anorexie, je vois mal comment on peut ne pas s'en rendre compte, parce que c'est tellement évident. Quelqu'un qui ne mange pas ou plus ou qui maigrit, on se le représente de l'extérieur comme quelque chose de absolument évident. Et tu m'as dit que toi, pour toi, ça a été long pour t'en rendre compte. Alors, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ton entourage, comment c'est possible de ne pas s'en rendre compte ?
Eh ben, en fait, c'est parce qu'on se fait de l'anorexie une idée caricaturale qui est celle que, évidemment, on nous donne. Donc forcément, on ne peut pas savoir. Mais l'anorexie, c'est rarement le fait d'arrêter totalement de manger. C'est rarement aussi concret et aussi clair et visible, du coup. C'est surtout un contrôle, le fait de manger moins et la conscience et la mémoire vont jouer de manière très importante parce que en fait c'est une mémoire qui soudainement va occulter beaucoup de choses. Donc on ne sait pas, on ne se souvient pas spécialement de ce moment où le contrôle a été énorme pendant longtemps. On se souvient de qu'on a mangé ci ou ça, on s'évade dans d'autres choses, mais on regarde pas vraiment ce qui se passe dans une journée. C'est une course vers le fait de mettre la main sur son inconscient, l'anorexie. C'est vraiment essayer de s'approcher le plus possible de son inconscient parce que sa conscience est corrompue, elle est tronquée, il se passe autre chose. Et moi, je le voyais pas parce que déjà mes yeux avaient tout déformé, donc de toute façon, je me voyais pas maigrir. Je me voyais même grossir. Je me ressentais tellement comme une sorte de masse flasque qui ne voulait plus rien dire et aussi un incendie. Enfin, moi, ce que je retiens, c'est plus la sensation que la vision, en fait. Parce que, bon, je me regardais, mais c'était tellement dû... Ma façon de me regarder était tellement due à ma... provoquée par ma... induite par ma façon de me ressentir que c'était surtout la sensation, et celle-ci est terrible. Et en fait, elle est tellement intense qu'on met du temps avant de savoir la dire, la reconnaître. C'est comme quand on est tellement brûlé, l'eau est très très ou très glaciale par exemple, qu'on a une sensation de chaleur ou on se ressent plus parfois le truc. Bah, c'était un peu ça, il y avait un truc où je savais même plus ce qui m'arrivait, donc du coup ça annulait presque les choses, et ça c'est ce qui m'est arrivé pendant un an et demi. Donc pendant un an et demi, voilà, je mangeais moins. Je contrôlais tout, j'avais des réactions qui étaient de plus en plus brutales et agressives envers l'imprévu qui pouvait survenir dans une journée. Donc ça me désemparait totalement, et si ma mère voulait faire ci ou ça à manger, je pouvais pas lui répondre que ça m'irait. Donc il fallait toujours rediscuter, il fallait, voilà, et je commençais à me mêler de tout et rien n'allait. Et c'est un constat que j'ai fait au bout d'un an et demi, quand en discutant avec un ami qui m'était très proche, je lui ai dit « mais c'est vraiment fou parce que j'ai cette tristesse en moi qui me quitte pas ». Et elle ne s'explique pas. Maintenant, j'ai eu mon bac, j'ai eu des bons résultats. Je suis libre, je peux sortir. Enfin, j'ai des copains, copines. Ma vie, c'est celle d'une fille de 18, 19 ans où j'attendais que ça. Et en fait, ça ne se passe pas. Je ne suis pas heureuse du tout. Et il me répond, tu devrais regarder autour de toi. Je pense que ça plane juste autour de toi, la raison de ta tristesse. Et cette phrase, en fait, elle a particulièrement résonné en moi. Je me suis dit, ben, il y a peut-être en effet quelque chose. Et j'ai commencé à errer beaucoup. Alors, j'aime bien marcher dans Paris et je marchais. Et j'ai découvert, je m'arrêtais beaucoup aux petites librairies, dans les petites librairies que je voyais. Et je ne sais pas trop ce que je cherchais, mais je cherchais quelque chose, ça c'est sûr. Et j'ai découvert à un moment donné un livre de Delphine de Vigan qui s'appelle « Jour sans fin ». Et en lisant la quatrième de couverture, je me suis complètement reconnue. Et ça m'a permis de formuler le mot « anorexie ». Et donc de considérer qu'en effet, oui, j'avais un problème. Et oui, il était temps de régler ça. Et en fait, c'est comme quand on cherche la raison d'une douleur et qu'on est hyper inquiet parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et une fois qu'on commence à comprendre, la douleur déjà, elle est moins forte. C'était un peu ça, l'anorexie. Il y a eu vraiment ce moment où j'ai commencé à comprendre que j'avais ça. Ça m'a rassurée presque parce que je me suis dit, OK, maintenant je sais sur quoi travailler. Après, le moment où je suis rassurée, il ne dure pas forcément très longtemps parce que ce travail, il est vraiment très difficile.
C'était quoi la place de la musique pendant toute cette période ?
La musique, c'était vraiment un exutoire. Donc, j'en faisais dès que c'était les vacances scolaires. J'en faisais même pendant la semaine et tout ça. Mais c'était vraiment après les... C'était pas central. Voilà, c'était quand j'aurais du temps. Et j'écrivais plus des textes que des chansons à ce moment-là. En tout cas, ouais, pendant ces 3 années-là, j'ai pas tant écrit que ça. Enfin, j'ai pas tant écrit de chansons que ça. J'en ai écrit quelques-unes, hein. J'ai quand même vécu des choses qui, à chaque fois, que j'ai dû recracher en musique et tout ça. Mais c'était pas ce que je regardais de manière centrale, la musique. Là, ce qui comptait, c'était de m'en sortir et de... Et de, en fait, cette sensation prenait tellement toute la place en moi que tout ce qui comptait, c'était de ne pas ressentir ça. Et donc, pour ne pas ressentir ça, il fallait se concentrer dessus, quoi. J'étais concentrée dessus quand j'ai commencé. Mais je m'en rendais pas compte, hein, sur le coup. Mais j'étais concentrée dessus, donc je voulais pas manger trop. Donc, je réfléchissais à comment je vais faire pour éviter tel restaurant ou tel moment où je dois retrouver mes copines. Enfin, tout prenait du temps de réflexion et tout me prenait la tête. Et puis ensuite, une fois que j'avais mangé, il fallait que je trouve comment ne plus ressentir ça. Donc il fallait marcher, il fallait faire du vélo, il fallait trouver un but pour aller faire du vélo. Donc je me disais, tiens, je vais aller faire telle course à l'autre bout de Paris et comme ça me fera faire un aller-retour en vélo. C'était que des trucs comme ça, que ça en fait. Il fallait me débarrasser de cette sensation et ça prenait toute la place. Et une fois que j'avais enfin réussi à canaliser la sensation, bah, soit il était l'heure du prochain repas, soit j'étais fatiguée, il était l'heure de dormir un peu, mais encore que j'étais dans une sorte d'hyperactivité, donc c'était difficile. Mais du coup, la composition, la musique en soi, c'était rare. Par contre, quand j'en faisais, ça me calmait. Je ressentais pas ça quand j'en faisais.
Avec le recul aujourd'hui, si tu pouvais revenir en arrière et te rencontrer dans toute cette période, qu'est-ce que tu aurais aimé pouvoir te dire ? Qu'est-ce qui aurait pu t'aider ?
Ben, en vrai, ce qui aurait pu m'aider, c'est... Je pense que c'est le fait de comprendre que je m'étais mise beaucoup de... que j'avais beaucoup de barrières, en fait, qui me gouvernaient et que c'était ces barrières-là qui étaient devenues des barrières dans l'anorexie, c'est-à-dire des choses où si je vais manger tel aliment ou tel autre aliment et que je vais goûter le plat de quelqu'un d'autre, c'est dépasser, c'est déborder, c'est faire quelque chose que je ne dois pas faire. Et c'est le parallèle exact avec je me permets de vivre telle expérience ou que j'échoue à tel moment, c'est il faut pas faire rimer ça avec le fait d'être dans le illégitime à vivre ou d'être dans l'erreur ou voilà. C'était un vrai parallèle en fait. Et ça, bon, je l'ai assez vite compris quand j'ai commencé ma psychanalyse, mais je pense que c'est si je m'étais rencontrée vraiment au tout début de l'anorexie, et en vrai, il aurait fallu que je me rencontre même avant, en fait, parce que tout ça, c'est en gestation bien avant, j'aurais insisté là-dessus, sur le fait que, voilà, c'est... l'échec, c'est pas de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. Et ça change beaucoup de choses.
Merci beaucoup pour ça, c'est très beau. Je vais revenir dans un instant sur qui tu étais avant, juste pour boucler un peu sur ce sujet. Tu parles de la psychanalyse, c'est toi qui as fait la démarche d'aller chercher de l'aide ?
Oui, et ben justement, ce même ami qui m'a dit cette phrase, lui était en analyse, on avait vraiment des conversations ensemble où on s'était beaucoup trouvés. Et en fait, lui, il m'a conseillé de faire une psychanalyse aussi. Et du coup, c'est comme ça que... Donc cette démarche-là, je l'ai faite grâce à lui, mais en tout cas, oui, je le voulais absolument. Et après, bah, ça m'a duré 4-5 psys avant de trouver la bonne personne. Donc ça, c'était ma démarche, mais parallèlement, c'était moins ma démarche. Je suis aussi allée à Sainte-Anne en psychiatrie. Alors là, j'étais pas interne, j'étais externe. J'avais deux rendez-vous par mois. Mais ça, c'était pas ce que je voulais vraiment. Mais mes parents me poussaient totalement à le faire parce que eux étaient désemparés. Et quand ils ont compris ce que j'avais, qu'ils ont su le mot, quoi, que... ils étaient totalement désemparés et du coup ils voulaient absolument que j'aille voir un médecin, voilà, un psychiatre qu'on leur avait conseillé. Donc ça je l'ai fait un peu contrainte, après j'ai quand même rédigé ma lettre auprès de Sainte-Anne pour dire que je voulais le faire parce que sinon on peut pas, mais c'était pas ce qui m'a sauvée, voilà. C'était, je pense que ça a eu son impact, hein, quand même. Mais c'est pas du tout essentiel, principal. Et c'est d'ailleurs dangereux aussi parce qu'on s'arrête beaucoup sur quelle a été la constitution de ton assiette, qu'est-ce que tu as mangé. Et parfois, le progrès, il est d'abord à l'intérieur avant de se voir. Et moi, ça me rendait dingue de me dire qu'on ne s'arrêtait qu'à ça alors que je savais que j'étais en train de progresser énormément et de m'en sortir. Donc, je pense que ça peut être décourageant aussi.
C'est-à-dire qu'on s'intéressait trop aux symptômes et pas assez, ouais, à la racine.
Exactement, on s'en fichait de vraiment essayer de parler, de comprendre. On regardait l'assiette, le nombre de repas par jour. Enfin, il y avait vraiment une fiche qu'il fallait remplir qui était inhumaine en vrai. Voilà.
Sur laquelle en plus il est facile de mentir. C'est-à-dire que si t'es pas en train de régler le problème mental... les symptômes, c'est facile de tricher, c'est comme avec l'alcoolisme.
Totalement, totalement. Et en plus de ça, c'est pas révélateur parce que il y a tellement de gens qui vont par exemple pas. Enfin, même moi par exemple aujourd'hui, je mange vachement bien le matin, je mange vachement bien le soir et c'est rare que je mange le midi, ça m'arrive, mais c'est pas toujours. Et c'est pas du tout parce que je me prive, c'est parce que j'ai un autre rythme, machin. Et du coup, si je remplis une fiche comme ça, on pourrait encore penser que... Ou il y a plein de gens comme ça. Donc, je trouve qu'on passe à côté de la vérité, quoi. C'est pas représentatif. Donc voilà, j'étais un peu heurtée par tout ça. Après, je pense que ça a dû m'aider quand même dans une certaine mesure. Mais c'était surtout la psychanalyse qui m'a sauvée.
Quelle place a pris l'inquiétude de tes proches dans toute cette période ?
Sur le plan amical, c'était très étrange, mais c'était un tabou total. Mes copines ne pouvaient pas le formuler, et quand j'avais un peu le besoin d'en parler, ce qui était rare parce que souvent moi je me montrais très dans le déni, comme si rien ne se passait, mais par moments c'est vrai que j'avais un peu besoin d'en parler, et ben c'était trop, je sais pas si parce que c'était trop dur à entendre, mais en tout cas j'avais un silence en face de moi. Je pouvais pas dire ce mot. Si je le disais, j'étais bizarre. C'est un mot qui faisait vraiment peur. Aujourd'hui, moi, il m'est très familier, donc je me rends moins compte, mais j'avais quand même cette sensation, c'est vrai, au début, de prononcer quelque chose de l'ordre du drame. Voilà, il fallait pas dire ça. Donc, du coup, au niveau amical, sur le plan amical, je me suis sentie très peu soutenue, en vrai. Très peu accompagnée, et j'aurais aimé être confrontée et que quand je dise non mais moi je vais manger une pomme, j'ai pas faim, mais que c'est toute la journée ou tout le temps. Et j'aurais aimé qu'il y en ait une qui me regarde et qui me dise mais tu es malade et je vais te donner la main et on va s'en sortir. Alors oui, c'est beaucoup d'implication de la part de quelqu'un, c'est déstabilisant, j'imagine, et tout ça. Mais moi, naturellement, je pense que c'est ce vers quoi je serais allée comme réaction. Mais bon, donc ça, c'était un peu difficile. Mais après, l'anorexie explique beaucoup de choses et elle explique aussi le fait que peut-être que je ne m'étais pas forcément entourée des bonnes personnes. Donc j'ai eu aussi des ruptures amicales après, mais voilà. Et après, sinon, sur un plan familial, ça a été très difficile. C'était très difficile parce que je voulais préserver quand même ma famille, et donc je voulais pas les inquiéter en leur disant tout ce qui se passait dans ma tête. Et donc j'avais tendance à faire la forte, c'était très très dur. Moi, je me sentais très seule, et en même temps, je ne pouvais pas en parler parce que voilà, je ne voulais pas les inquiéter. Et du coup, ça me demandait une énergie folle de faire encore plus forte que ce que j'étais, alors qu'à l'intérieur, c'était le chaos. Et eux, évidemment, ils avaient une position hyper, hyper fragile parce qu'ils essayaient de ne pas me heurter, donc de ne pas trop dire. Mais parfois, ils en parlaient quand même et ils me disaient « mais essaye quand même de manger ça et ceci et cela ». Et alors, j'étais un diable, j'étais un démon, une tornade de révolte qui pouvait s'emporter à tout moment. Et eux en faisaient les frais beaucoup plus qu'à l'extérieur, où je paraissais assez calme et discrète. C'est vrai qu'à l'intérieur de la cellule familiale, je pouvais m'emporter très 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 fort. Donc ouais, c'était très particulier pour les proches. Ma mère a suivi un groupe de parole à Sainte-Anne, ce qui a été génial parce qu'elle s'est rendue compte que autour, les parents des autres anorexiques avaient des similitudes, on va dire, dans le comportement et tout ça avec elle, que quelque part, il y a quand même des mécanismes qui mènent à l'anorexie. Et qu'il y a, on peut changer ça. Alors après, moi, enfin, quand on commence une psychanalyse, on nous dit très vite, ne pensez pas que vous changerez vos parents, c'est vous qui devez vous adapter et vivre bien avec comment ils sont et tout ça. Ce qui est vrai, mais en tout cas, ça lui a permis, ça leur a permis, et surtout à ma mère, de mieux comprendre certaines choses et de corriger certaines choses, et aussi de dédramatiser et de dézoomer sur certaines choses qui, moi, m'envahissait trop, en fait. Donc ça, c'était bien, ça les a fait grandir, ça nous a enrichis. Enfin, ça a été aussi sur un plan familial, je retiens des scènes magnifiques quand même, où il y a des cris, des pleurs, mais à la fois ça remue des choses que eux n'ont pas voulu voir de leur enfance, de leur jeunesse, et que moi, soudainement, je cristallise et qui ressortent. Et donc j'étais dans une sorte de lucidité et de clairvoyance assez, assez forte à ce moment-là. Et donc je disais tout haut des choses qui ne se disent pas forcément en famille ou dans notre famille et tout ça. Et ça les obligeait à sortir de leur gond aussi, à se dévoiler. Enfin, il y a eu beaucoup de partage à ce moment-là quand même. Et des scènes très belles dont je me disais souvent si un jour j'ai le courage de faire des films, ce que j'aimerais vraiment faire. Je sais tellement ce que je raconterais, quoi. Donc, voilà.
Ah, je te souhaite vraiment de persévérer dans cette voie, parce que ça se sent que tu as beaucoup d'histoires à raconter et un vrai talent pour le faire. Donc,
merci.
Plus que tu racontes en musique, moi, je serai la première à venir regarder dans une salle de cinéma. Je veux juste rebondir sur ce que tu as dit sur les amis, parce que je pense que c'est très intéressant et très important. Je suis persuadée que plein de gens peuvent se reconnaître dans cette situation, d'avoir une amie qui clairement ne va pas bien et de se dire mais ben oui, elle est dans le déni, clairement elle ne rebondit sur aucune perche qu'on lui tend, parce que j'imagine très bien comment ça peut, comment tu peux être dans une situation comme ça. Et il y a ce dilemme de si je provoque une discussion compliquée et que ça met fin à l'amitié ou ça génère un conflit, ça va pas aider la personne pour autant. Et il y a un côté, tu préserves le statu quo plutôt que de effectivement venir en aide. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ton témoignage qui a posteriori vient dire si j'aurais voulu qu'on me rentre dedans en fait. J'aurais voulu qu'on me laisse pas mentir, on me laisse pas
c'est ça, mais
maintenir ce déni.
Mais j'entends tout à fait quand même que j'étais dans un truc où je devais renvoyer qu'à moitié ce signal-là. Hein. C'est-à-dire que je pense que j'étais une personne qui était difficile à appréhender, mine de rien, parce que quand par exemple, ça dépend de quels amis, hein, mais quand par exemple je voulais aller absolument à tel restaurant pour manger tel plat, tel truc, et que c'était la seule solution pour que je puisse passer un moment avec mes amis, et qu'à un moment, bah, je comprends, à terme, elle me répond « Oui, mais écoute, on l'a déjà fait 1000 fois, ce resto, viens, on change, on va ici. Hein. » Et que bah, je réponds « Mais ok, pas de souci. » Et que je sais très bien qu'une demi-heure avant, je vais dire « Bon, les filles, finalement, je peux pas venir, j'ai un truc, nanana. » Je comprends que c'est pas facile de me cerner et de dire bah écoute on sait très bien pourquoi tu viens pas, c'est pour ça, mais faut que tu travailles dessus, hein. Je comprends, parce que moi j'aurais répondu mais non c'est pas ça. Donc oui c'est difficile ça reste très difficile à appréhender, mais en fait c'est un truc qui se fait. Parce que j'étais pas non plus que là-dedans, j'étais aussi dans la discussion, voilà, j'aime bien réfléchir sur... Enfin, j'aime bien parler de psychologie, de façon de voir la vie, de tout ça. Donc, j'étais pas une personne qui parle pas non plus. Donc, il fallait juste savoir comment me prendre et il fallait en avoir envie. Après, j'ai aussi fait des choix d'amis et d'amitié qui étaient très révélateurs à ce moment-là de comment j'étais quand j'étais... plus jeune et les mêmes choix qui vont me mener à l'anorexie, donc des choix qui sont pas forcément les bons, et l'analyse m'a permis de m'en rendre compte et donc aussi de d'oser les ruptures, d'oser reprendre un peu à zéro et tout ça, mais certainement que celles aussi qui ne voulaient pas en parler, c'est parce que en parler c'était comprendre, dénouer, comprendre qu'est-ce que c'est que l'anorexie, c'est-à-dire l'image, je la trouve vraiment trop belle, mais c'est disparaître parce qu'on ne prend pas sa place, au sens propre comme au figuré, et en fait se questionner sur qu'est-ce qu'on veut vraiment, quelle est sa place, et là, en commençant à incarner ça, à reprendre de la place et de l'espace. Et ça, c'est potentiellement renvoyer un miroir à celles qui, ou à ceux qui ne vont pas s'autoriser ça. Et je pense que c'est ça aussi que mes amis de l'époque voulaient pas forcément entendre.
Et surtout, nos amis sont pas des professionnels de santé.
Exactement.
Moi, je retiens surtout de ton histoire que c'est de toi que le salut est venu, parce que c'est toi qui as eu la compréhension, la démarche et qui est allé chercher de l'aide et a fait le chemin pour t'en sortir. Donc, ce que je propose à toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est d'écouter mai 2018. Et si cette chanson et cet entretien vous fait quelque chose, je mettrai dans la note du podcast des ressources, des numéros de téléphone, des associations, une première étape, voilà. Toi tu as eu cette 4e de couverture, j'ai l'espoir que et ta chanson et cette interview soient la 4e de couverture de quelqu'un d'autre, et la sortie de ça. Merci beaucoup pour ça. Je te propose qu'on enchaîne en parlant justement de l'adolescente que tu as été avant ça. C'est un moment charnière dans la vie de beaucoup de gens, l'adolescence. Ce que je te propose, c'est de choisir un âge dans cette période. Et tu me dis pourquoi tu choisis cet âge. Et tu te décris un peu à quoi tu ressemblais, qu'est-ce que tu écoutais comme musique, qui était cette Laurie à cet âge-là. Tu disais que tu aurais eu des trucs à te dire.
Oui.
Faisons cet entretien.
Moi, j'étais quelqu'un de très timide, très réservé. Très contenu, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir quand même 1000 choses, 1000 fantaisies à l'intérieur, mais que je ne savais pas les... Enfin, en tout cas, je les auto-censurais d'une certaine manière et qu'il n'y avait que moi qui le savais. Et du coup, j'étais particulièrement sage, soucieuse de savoir qu'on me penserait sérieuse. Donc, par exemple, quand j'étais avec des copains dans le bus qui faisaient un peu de bruit, moi je regardais toujours les gens un peu pour m'excuser pour eux. Voilà, c'était, il y avait une sorte une forme de conscience qui était là trop forte et qui m'empêchait d'être vraiment spontanée. Voilà, j'étais bonne élève à l'école, je travaillais pas forcément beaucoup, mais j'avais des facilités et ça me plaisait, j'étais très curieuse, j'adorais le français. Donc voilà, j'étais une adolescente assez de l'extérieur, on pourrait dire, bien équilibrée, voilà, et puis sérieuse, quoi. À l'intérieur, dans la censure, voilà. Pas à l'aise, déjà pas à l'aise. Et très soucieuse du regard des autres. Donc la censure, pourquoi? Justement parce que j'avais peur qu'on se moque de moi si je disais ça. J'avais peur qu'on me juge, si je faisais tel ou tel mouvement, si je me permettais de danser comme j'en avais envie. Et je me suis beaucoup retenue sur un plan corporel aussi, hein. Donc voilà, c'était un peu ça. Et du coup, j'étais une suiveuse parfaite dans un groupe. Je savais très bien, suivre. J'avais toujours mes copines et puis j'avais une meilleure amie. Et à chaque fois, je devenais... Alors au début, c'était pas le cas. J'étais plutôt bien vue par ma meilleure amie. Et elle avait une certaine fascination pour moi. Et puis à la fin, je devenais toujours celle qui était... plus bas que sous terre et très éteinte et écrasée. Et certainement que c'était aussi un mécanisme que je mettais en place inconsciemment, parce que je ne suis pas tombée que sur des amies qui étaient malveillantes. Donc je faisais en sorte de devenir un peu cette victime. Et voilà. Donc c'est un truc qui m'a vachement constituée. Et donc j'étais aussi très dépendante affectivement, toujours de mes amis. Mes premières chansons, finalement, c'est exactement de là que ça part. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Rupture et une chanson qui s'appelle Malsain. Et Rupture, c'est la première que j'ai sortie quand j'ai commencé à faire de la musique sérieusement. Je l'ai écrite quand j'avais 16 ans et c'est une rupture amicale que je raconte dedans. C'était pas... Après, voilà, moi, je romance un peu, mais le sentiment premier, celui en tout cas qui m'a permis d'écrire cette chanson, c'était celui d'une rupture amicale, parce que déjà, j'avais jamais eu de copain, donc je parlais pas d'amour, enfin, je savais pas... J'aurais pas forcément su parler ce que je n'avais pas vécu, mais surtout parce que c'était tellement intense ce que je ressentais qu'il fallait que je crache cette chanson et que voilà, ça c'est... Et Malsain, une autre chanson, parle exactement de ça aussi, de ces amitiés qui m'ont complètement constituée et à la fois détruite aussi. Et l'anorexie, c'est le prolongement de ça. C'est une dépendance aussi. Et il y a un moment donné où, en fait, elle ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre, elle s'adresse à moi-même, en fait. Et ça, c'était terrible. Mais ça m'a préservée de la dépendance affective quand j'ai été anorexique. C'était presque pour m'en protéger, quelque part.
C'était quoi tes inspirations à l'époque ? Que ce soit en termes de musique ou plus largement d'aspiration de vie, de futur ? Est-ce que tu t'en souviens ?
Oui, c'était... Mais c'était un peu classique, quoi. C'était, voilà, il faudrait, dans la vie, il faudrait faire... des belles études, avoir un mari, être enceinte à 23 ans, je voulais 5 enfants, bon j'en veux toujours 5 mais maintenant je suis mal barrée. mais voilà, j'étais dans un truc très schématique de vie, quoi, et classique, donc très loin de ce que j'ai compris après, hein, et de qui j'étais et tout ça. Mais finalement, j'étais certaine, enfin, c'était même pas une question, je me demandais même pas ce que je voulais ou ce que je voulais pas, j'étais certaine que c'était ça, quoi. Ça venait des séries que je regardais, ça venait de la famille dans laquelle j'évoluais, ça venait de plein de choses, enfin, des cercles de pensée qui étaient autour de moi, des communautés, enfin, bon, plein de trucs, quoi. Ça venait de... Et puis de ce qu'on défend, hein, aussi dans la société, et qu'on dit être la bonne façon de réussir sa vie, de construire sa vie. C'est-à-dire, être dans la construction, c'est faire ça. Enfin bon, des choses qui je trouve aberrantes aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas, moi, j'ai été bercée par ça. Et donc, cette structure-là m'a totalement convenue. Et j'ai surtout pensé que c'était moi qui l'avais choisie, alors que non.
Aujourd'hui, si tu pouvais parler à l'adolescente que tu as été, quel regard tu portes sur elle ?
Ben, je pense que je la bousculerais, en vrai. Parce que, à mon avis, j'avais besoin d'être bousculée. Et en vrai, je l'ai un peu fait. C'est-à-dire que moi-même, j'ai été ensuite animatrice de colonies de vacances quand j'avais 17 ans. Donc, j'étais plus totalement adolescente, mais j'étais encore dans une période qui s'en rapproche assez fortement. Et j'ai animé des colonnes, donc des jeunes filles qui avaient 13 ans, 14 ans, voilà. Et en fait, je les ai beaucoup... J'ai l'impression, je me fie beaucoup à mes intuitions et puis j'ai l'impression de deviner assez vite... des personnalités ou des problématiques un petit peu. Et en fait, quand je ressens ça, j'aime un peu y aller, quoi. Et il y avait des jeunes filles que je trouvais un petit peu comme ça, qui me faisaient penser, notamment une qui me faisait un peu penser à moi, et que je trouvais presque désabusée, comme si elle... être presque sûre d'avoir compris plein de trucs et que de toute façon elle serait toujours peut-être un peu triste, un peu à survoler les choses. Et dans ces cas-là, moi je lui rentre un peu dedans et j'aurais aimé qu'on me fasse un peu ça. Alors on me l'a un petit peu fait, hein, et c'est pour ça aussi que j'ai des amis qui sont plus âgés que moi, parce que j'ai noué des très belles relations avec des personnes qui sont intervenues dans ma vie, soit parce qu'à un moment donné c'était mon professeur, soit parce que c'était mon animatrice de colonie de vacances, mais du coup des personnes qui sont plus âgées et qui sont par la suite devenues des amies très intimes. Et donc moi j'aurais aimé... pareil, à un moment donné, qu'on me vienne et qu'on me dise, tu crois que t'as un peu fait le tour, machin, et qu'on me secoue un peu. Parce que je me sentais très. Je sais qu'à 15 ans, j'écrivais quelques dialogues un peu comme ça, qui plus tard sont devenus une. Enfin, en tout cas, j'ai écrit une pièce de théâtre plus tard quand j'ai eu 20 ans, qui est importante pour moi. Et ça parle un peu de ça. Et donc déjà, à 20 ans, il y avait toujours ce mot désabusé qui flottait, qui était là, qui était quelque part. Et d'un dialogue où quelqu'un me confrontait un peu à ça et disait « Mais toi, en fait, t'es désabusé, tu te sens désabusé. Quel est ton problème ? Qu'est-ce qui te va pas ?» En quoi manques-tu d'intensité quelque part ? Et j'aurais aimé qu'on me bouscule un peu comme ça, en fait, et qu'on vienne me chercher d'une certaine manière, ce qui a un peu été le cas quand même. Donc il y a quand même certaines personnes qui l'ont fait et j'ai eu des échanges riches et passionnants avec ces personnes-là. Mais c'est vrai que c'était pas les choses principales qui se passaient dans ma vie à moi. Et je me sentais souvent un peu marginale parce que du coup ça m'ennuyait, je m'ennuyais un peu, quoi. Voilà. J'aurais dit ça en tout cas à l'adolescente que j'étais si je pouvais venir la consulter.
Et elle, si elle pouvait te voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle penserait de toi ?
Alors je pense très sincèrement qu'elle éprouverait pour moi une forme de alors dégoût, le mot est pas forcément le bon, mais de colère et de fascination à la fois. Parce que je pense que je symboliserai quand même plein de choses qui la font réagir, c'est-à-dire qui lui procurent quelque chose auquel elle n'est pas indifférente du tout, mais qui ne sont pas dans son territoire autorisé. Et qui du coup naturellement l'énerverait, qu'elle discréditerait, ou enfin qu'elle argumenterait pour me discréditer et faire en sorte que je sorte de son champ de vision. Et à la fois, elle pourrait pas lutter contre l'intérêt spontané qu'elle me porte, parce que je la fais réagir dans la mesure où j'incarne des choses qu'elle ne s'autorise pas, en fait. Donc je pense que je ressentirais ça en me regardant, puisque moi aujourd'hui je sais très bien que je suis loin de tout ce que j'ai poursuivi. Et qu'une fille comme moi je suis maintenant, je l'ai beaucoup critiquée à l'époque.
Voilà. Quelle leçon tirer de ça? De pas insulter l'avenir quand on a 15 ans.
C'est peut-être ça. Bah c'est en tout cas surtout que c'est voir plus large sur qu'est-ce qu'on se fait de l'idée d'une femme et du parcours d'une femme et la place de la femme dans la vie. Donc voilà, moi sans être arriérée, j'étais pas je pensais déjà être quand même assez moderne dans ma vision des choses, puisque j'ai une mère qui a toujours été femme active, qui a géré en même temps sa famille, son boulot, qui vit pour son boulot, etc. Et que donc ça a toujours été un modèle que j'ai voulu suivre, donc j'étais quand même pas arriérée non plus dans ma vision de la femme, mais elle avait une certaine façon d'être, et il fallait et d'ailleurs il fallait pas trop l'entendre parler de désir. Je pense que j'avais pas envie de l'entendre dire qu'elle a envie d'aller voir d'aller avec telle ou telle personne. Enfin, il y a plein de choses en fait. Hein. Il y a plein de choses que je me suis autorisée depuis et que je trouve nécessaires et que à l'époque en tout cas je critiquais. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui peut être le cas dans la façon de recevoir mon projet parfois auprès des femmes. Je trouve que ça les bouscule par moments, parce que peut-être que voilà, ça peut faire un miroir de ce que d'autres s'interdiraient.
Parce que tu parles beaucoup de désir et de sexualité.
Oui, exactement. Et je le fais comme bon me semble. C'est-à-dire, parfois, si sur scène, tu vois, j'ai porté... j'aime bien dessiner mes vêtements. Et j'ai dessiné des mini-shorts et des bustiers avec des bottes, un peu comme une superwoman. Donc c'est drôle, parce que c'était pas du tout conscientisé à la base. Et en fait, je sais que j'ai eu des critiques, j'ai fait aussi une affiche où j'avais ce short, ce bustier, et puis les jambes écartées. Mais alors, quand je la décris comme ça, l'affiche, on a l'impression que c'est un truc porno, limite. Enfin bref, pas du tout. Moi, je voyais quelque chose de profondément artistique. La photo avait été captée comme ça, avec la photographe on s'est même pas dit tiens tu vas écarter les jambes et tout, c'était vas-y évolue dans l'espace, et moi c'est ça que j'aime dans cette photo, c'est qu'il y a quelque chose de juste de spontané, et un mouvement du corps qui est vrai et qui raconte une libération, enfin voilà. Et ça a été hyper discuté parce qu'on disait c'est vulgaire, enfin c'est les femmes hein, surtout qui m'ont vachement qui n'ont pas bien pris cette photo, plus que des hommes, ou à la limite les hommes comme des hommes, enfin voilà, ils vont dire on dira moi j'ai envie de la baiser non, ou dis donc, enfin bon voilà, des réflexions débiles, enfin on s'en fiche quoi, ça m'atteint pas. Et puis même, c'est pas grave, tu vois, c'est leur façon d'être aussi, et je trouve ça même limite attendrissant. Par contre, des femmes qui, elles, trouvent que ça raconte, ça dessert la condition des femmes, c'est vulgaire, il faut pas s'étonner, c'est tout ce que j'ai reçu, il faut pas s'étonner après, derrière, d'être violée. C'est des choses où je me dis, mais en fait, si ça bouscule autant, c'est que certainement, ça doit aussi faire un miroir de quelque chose qu'elles s'interdisent, qu'elles ne s'autorisent pas. Et moi, je crois que le vrai féminisme, ou en tout cas la vraie parole qui prône la liberté des femmes, c'est celle qui, justement, les laisse être comme elles ont envie d'être, en fait. Et c'est certainement pas un truc qui les cantonne à « t'es libre, mais tu t'habilles pas comme ci, tu t'habilles pas comme ça ». Voilà,
c'est pas vraiment libre quand tu dois respecter des règles qui sont imposées. Et ce que tu décris, souvent quand on renvoie une femme à la vulgarité ça n'existe pas. C'est une construction sociale complète qui repose sur la morale. Donc il n'y a pas plus fluctuant et immatériel et pas concret que la morale.
Totalement.
Donc en général, quand on te renvoie à la vulgarité, c'est une espèce de joker pour dire t'es en dehors d'un cadre dans lequel on est toutes confinées. Donc merci de ne pas montrer que c'est possible de sortir, parce que moi je n'arrive pas à sortir.
Voilà.
Parce qu'en réalité, il y a des injonctions très fortes qui pèsent sur énormément de femmes et que ça demande du courage, de l'audace, ça demande une prise de risque en fait d'en sortir.
Ouais, c'est une vraie quête. Et moi, la première à être parmi ces femmes qui auraient critiqué, mais mille fois, justement ce que je te dis, tu vois, tout ce que je peux représenter aujourd'hui en fait, d'une certaine manière. Parce que j'aurais dit, ah, mais c'est pas sérieux, c'est frivole, c'est futile.
Tu te décrédibilises en tant qu'artiste.
Voilà, tu vois.
Ce genre de choses.
Et oui, et donc, du coup, en tout cas, voilà, j'aurais été parmi elles. Donc, je comprends le mécanisme et je crois que c'est celui-ci. Parce qu'on peut ne pas adhérer, mais quand la réponse elle est violente comme ça, c'est que ça ne laisse pas indifférente. Donc, ça veut dire quelque chose.
Alors, la partie suivante, c'est un choix. Je vais te proposer soit de parler d'un lieu, soit de parler d'une histoire. Donc soit on va explorer ta zone de confort comme si c'était une pièce de ta maison et tu me décris ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Le but étant de permettre à celles qui nous écoutent de se représenter elles-mêmes comment est-ce qu'elles pourraient meubler leur zone de confort. Et je précise juste le concept de zone de confort, c'est dans l'esprit d'avoir un endroit dans lequel tu te sens en sécurité qui te permet d'aller ensuite prendre des risques dans la vie. Soit on fait le film de ta vie et donc on s'arrête un peu sur quelle serait la bande originale de ta vie, quel serait l'élément problématique déclencheur de l'intrigue, qui serait le méchant de l'histoire, sachant que ça peut être à chaque fois soit une personne physique, soit un événement, soit un sentiment, enfin voilà, ça peut être complètement immatériel. Donc c'est l'heure du choix.
Et ben moi j'aime bien la deuxième option là.
Le film de ta
vie.
Ok, non, ben, c'est parti. Alors, si ta vie était un film, quelle serait sa bande originale ?
Alors là, par contre, je sais pas.
Alors, tu peux citer plusieurs inspirations, plusieurs chansons. Ouais. Souvent dans les films, tu sais, t'as la chanson du générique phare, mais t'as aussi tout un univers musical qui va avec. Explorons.
Ben, écoute, franchement, ça pourrait être une musique classique, tu vois. J'adore. Comment elle s'appelle celle-ci ? Celle de Chopin, je crois que c'est truc en fa mineur, enfin bref,
je peux pas t'aider, je n'ai pas la ref.
Je crois que c'est Op 64, celui, il y a un 64 dedans, voilà.
Alors pourquoi ?
Alors pourquoi, oui, c'est surtout ça, parce que ça commence... En fait, on sent le drame assez rapidement, et il y a une tension dramatique dans cette chanson qui est pourtant assez douce. Et ensuite, ça éclot vers quelque chose de plus serein, de plus rassurant. Je crois que ça me ressemble totalement. C'est-à-dire que ça commence difficilement et puis ça devient... voilà, mais le drame dans la chanson revient aussi. Enfin, il plane toujours un peu. Moi, j'aime bien. Je crois que ça me ressemble et ça ressemble un peu à ma vie où y a un petit peu cette... Ces deux extrêmes, parce que j'ai pas trop de juste milieu, c'est vrai, mais ces deux opposés qui flirtent entre quelque chose d'absolument noir et dramatique et intense quand même, et quelque chose de beaucoup plus lumineux, serein, simple et très joyeux. Et là, on en arrive à quelque chose que j'ai envie de dire, qui est la théorie du fer à cheval de Jean-Pierre Chevènement, où finalement les deux extrêmes se rejoignent comme un fer à cheval, tu vois.
Ok, cette ref, d'accord.
Voilà. Cette ref que j'ai apprise en quatrième et qui m'a toujours vachement... que je n'oublie pas, et que je trouve assez juste. Donc là, je l'ai apprise à l'époque, on expliquait autre chose, mais en fait, je trouve qu'elle s'applique très très bien à ça. Et les deux opposés, souvent, finalement, ils communiquent très bien. Et donc voilà, donc Chopin. Qu'est-ce que je mettrais d'autre ? Je mettrais aussi musique de John Williams. C'est une chanson de John Williams que j'adore. Qui est assez longue et qui raconte son amour pour la musique. Les paroles, c'est pas ce qui compte le plus parce qu'il chante pas beaucoup dedans, mais il y a vachement de moments musicaux différents qu'il explore, on dirait, et qui sont juxtaposés les uns aux autres. Et dans la façon dont c'est construit aussi, je trouve que ça ressemble un petit peu à un chemin de vie, quoi.
Je vais quand même en profiter pour poser une question sur Février 91.
Oui.
Parce que, en plus, donc, cette chanson me touche tellement, alors qu'on n'a pas le même âge. Moi, je suis née en 86, donc
d'accord.
Je suis un peu plus âgée.
Okay.
Et pourtant, tout ce que tu racontes dans cette chanson, c'est... Alors, c'est très marqué temporellement, parce que tu cites des émissions de télé que je regardais aussi. Et pourtant, il y a une dimension tellement intemporelle. Elle t'est venue d'où, cette chanson ?
Alors, en vrai, elle est venue, j'étais dans le métro. Donc je vais parler genre du texte parce que la chanson, la musique en elle-même, c'est une musique que j'ai composée. Je l'avais jamais posée, mais je la jouais souvent au piano et je l'avais composée quand j'avais 22 ans, tu vois, donc longtemps avant. Et j'avais envie à l'époque, je l'avais appelée la danseuse ombragée, je l'avais juste appelée comme ça. Et je l'avais enregistrée juste au piano, quoi, mais j'avais pas fait toute la musique, l'instrumentation qu'elle est derrière. Et j'avais envie, tu vois, d'en faire un petit mini-film pour l'illustrer avec une fille qu'on voyait danser, mais juste en ombre chinoise. Enfin, voilà, chose que j'ai pas faite. Mais je savais que je voudrais exploiter un jour cette chanson-là, cette musique-là. Et puis ensuite, j'ai écrit ce texte de manière très spontanée dans le métro quand j'ai terminé mon premier album. En fait, je venais de le terminer. Il était à l'étape du mix, donc j'allais recevoir les mix, tu vois, mais moi j'avais fini de tout enregistrer, de tout faire, et c'est un disque que j'avais vraiment eu beaucoup de mal à faire, qui portait des chansons que j'avais écrites il y a des années aussi, et que je ressentais plus forcément, enfin c'était sinueux comme parcours, pas du tout comme ce disque de maintenant qui va sortir. Et en fait, une fois libérée, parce que j'avais dit « Ok, c'est bon, j'ai mis le point final et je sais exactement que maintenant, je ne vais pas revenir dessus et je suis ok avec tout ça, toutes ces chansons », et ben, c'est comme s'il y a quelque chose de très limpide, enfin, qui est venu pour englober le tout, comme s'il y avait un cycle que j'avais terminé. Mais j'en avais cette sensation que ces chansons, tant qu'elles n'étaient pas finies, je ne pourrais pas être libérée de ça. Et donc, février 91, c'est arrivé vraiment comme si j'avais eu un recul soudain. Et c'est venu, donc c'était un texte que j'écrivais quand j'étais dans le métro, c'est-à-dire que je ne l'ai pas relu, enfin je ne suis pas restée 1000 ans sur les phrases, ça sortait comme ça. Et ça raconte peut-être, enfin ça s'étend sur peut-être 2 jours de métro, quoi. Tu vois
2 jours de métro, c'est
2 jours de métro, je dirais. Ou j'attends le métro, ou alors je suis dans le métro, voilà, et puis j'écris, mais je ne le fais pas en dehors. Puis voilà, et c'est fait, c'est là. Puis je ne le regarde pas tout de suite pour ce qu'il est, mais peut-être qu'une semaine après, je me dis, tiens, quelques jours après, je me dis, mais bon, il faudrait... Je commence à essayer d'élaguer certains trucs, mais très peu, mais quelques-uns. Je le lis à mon frère qui me dit « Non, alors là, ne me fais pas ça. Moi, je suis déjà super nostalgique et tout de toute cette période. Donc, si en plus, tu me lis tout ça... » Et je me dis « Bon, bah, c'est marrant, ça fait réagir et tout. » Puis, je le lis à une de mes meilleures amies. Et puis, pareil, elle me dit « Oh là là, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. » Enfin bon. Et puis, parallèlement... Donc, comme par hasard presque, mais c'est à mon avis par hasard, je travaillais sur cette musique, justement, que j'avais composée des années avant. Je me dis, mais en fait, je vais essayer d'allier les deux, peut-être. Et puis, l'exercice me paraissait très compliqué parce que je me disais, mais comment je vais faire pour que, dans la dramaturgie du texte, il y ait quelque chose qui soit chronologique avec la dramaturgie de la musique, enfin que au moment où ça s'emporte dans le texte, ben dans la musique ça s'emporte aussi, alors que je les ai fait spontanément les deux et puis séparément, quoi. Et puis ça a été aussi du coup toute une exploration de cet exercice là qui m'a plu. Ou même le tempo change au milieu, donc il fallait changer de tempo. Enfin bref, c'était sur un plan technique, c'était un peu genre, je faisais du bricolage, quoi, c'était drôle. Mais ça me plaisait bien et j'avais l'impression que ça venait très bien soit introduire mon disque, soit clore mon disque, enfin le premier album que j'allais sortir, auquel j'ai donné le même nom d'ailleurs, février 91. Enfin bon, ça coulait de source, donc voilà, c'est venu vraiment spontanément et finalement ça a été le truc le plus important, en fait. C'est drôle.
J'espère que j'aurai suffisamment donné envie aux gens d'aller écouter cette chanson. Ils comprendront après mon obsession, je suis sûre. Alors je reviens au film de ta vie. Quel serait l'élément problématique déclencheur de l'intrigue ?
Alors je pense que c'est un texte que j'ai écrit quand j'avais 13 ans qui s'appelle Pour de vrai, qui est le premier texte que j'ai écrit. Vraiment, où c'est pas de la fiction et c'est gratuit, quoi. Vraiment, j'écris ça comme ça, on m'a pas demandé de faire une rédaction. Et qui dit dedans, à la première personne, je crois, ou à la troisième personne du singulier, peut-être que je prenais cette distance-là, mais qui dit « Je ne suis qu'un mensonge, je donne le change, c'est-à-dire je fais tout pour qu'on ne le voit pas et qu'on me prenne pour une petite fille modèle parfaite, et voilà, mais tout est absolument faux. » Et ce texte, il m'a beaucoup marqué parce que déjà... c'est pareil, certainement, tout début, j'ai senti que je disais un truc qui me parlait de moi. Et puis, en deux secondes, comme quand on essaye de poursuivre un rêve, de s'en souvenir, ça s'est enfui et j'ai plus du tout pensé que je parlais de moi. Je pensais que j'avais écrit quelque chose, juste, voilà, presque comme une histoire, enfin bon. Et moi, je pense que la clé, elle était vraiment là, quoi. Et je le savais en fait très vite, mais je ne l'ai pas regardé pour ce que c'était. Et dedans, tout est dit, tout est dit. Faudrait que je le ressorte parce que c'est vraiment, c'est drôle de voir comment on peut s'auto-censurer et passer à côté de tellement de choses. Mais ça dit la danse, ça dit que dans le mouvement, dans la danse, il y a des moments où je me sens tellement bien. Et en fait... j'aimerais danser toute ma vie et non, je c'est pas ce qui se passe. Et moi, je suis plutôt cette fille un peu limite, un peu maladroite avec son corps, qui est pas très à l'aise, qui a donné l'habitude d'être plutôt réservée et dans les booms, par exemple, qui va être plutôt à côté du buffet et sur le canapé, alors que j'aurais qu'une envie, c'est de me laisser juste aller, en fait. Donc, tout est dit dedans. Et je pense que ça, c'est un élément intéressant parce que du coup, ça explique tout le reste. Et j'ai écrit d'ailleurs, quand j'avais 15 ans, donc 2 ans après ce texte, j'ai commencé à écrire un livre que j'ai pas fini, mais que j'ai écrit jusqu'à mes 20 ans. Parfois, j'y suis revenue de temps en temps, mais voilà, qui mettait en scène... en tout cas, l'histoire d'une fille. Alors peut-être que j'irai au bout un jour parce que je trouvais que l'histoire, elle était intéressante, mais je l'ai vécue en plus dans ma vie personnelle après, donc hein, c'est incroyable. Mais qui mettait en scène une fille qui, un jour, ouvre le tiroir de son bureau et découvre plein de feuilles dont elle ne sait pas d'où ça sort et qui raconte ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle vit et qu'elle n'a jamais dit à personne. Et voilà, et tout le truc, c'est de comprendre ça. Donc voilà, je pense que inconsciemment, je savais que ce texte, il disait beaucoup de choses et que j'aurais peut-être dû le regarder davantage, mais après, j'étais dans le déni aussi. Hein.
Alors justement, si ta vie était un film, qui ou quoi débarque au bon moment pour te prêter main forte? Qui c'est ou qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui se passe?
C'est quand j'ai 18 ans que je rencontre un garçon qui, pour la première fois, me fait quelque chose, c'est-à-dire que le fait de le rencontrer, ça me procure quelque chose où je me sens et à la fois désireuse, alors que j'avais jamais eu de désir, j'ai du désir. Et j'écris d'ailleurs une chanson aussitôt qui s'appelle « Monte encore » qui est dans mon premier album. J'ai l'impression d'être comprise, de ne plus me sentir seule. Et c'est vrai que le jour où j'ai rencontré ce garçon, je me suis plus sentie seule du tout. Et ça intervient dans un moment où j'étais totalement déprimée. Je revenais d'un voyage en Espagne où pour la première fois j'étais partie avec mes copains pendant l'été, j'avais 18 ans. Et j'étais pas du tout heureuse, je venais d'avoir mon bac et tout et je commençais mes études. Mais ouais, j'étais pas bien et je me disais, alors là, si maintenant je suis pas bien, qu'est-ce qui m'attend, quoi. Et puis j'étais conviée à un anniversaire auquel j'avais absolument pas envie d'aller. Et puis finalement j'y vais, très poussée par mes copines. Il y avait plein de copains, copines différents qui allaient être tous ensemble réunis à ce même anniversaire. Donc voilà, un peu le truc où il fallait être. Puis j'y vais et je me sens mal à l'aise, très mal à l'aise. Voilà, je me dis mais pourquoi j'y suis allée? Enfin, j'arrive pas du tout à être dedans. Et puis je vais pour sortir, c'est-à-dire que je m'approche de la sortie, c'était dans un long manoir, enfin bref, il y avait un long couloir, c'était assez beau. Et je m'approche de la sortie, et puis je sais même pas ce que j'allais vraiment faire, je sais même pas ce que je... Mais il fallait que je sorte de cet endroit parce que tous les regards me tuaient quelque part. Enfin, c'était trop dur à supporter, j'étais trop réceptive au regard des autres et tout ça. Et du coup, je m'approche pour sortir. Et puis là, il y a une main qui me m'attrape par la taille et qui me demande, enfin, et puis une voix qui me demande « Comment t'appelles-tu ?» Et c'est ce garçon. Et par ailleurs, par la suite, on devient très amis. Et c'est une relation dans ma vie qui m'a sauvée. En tout cas, à ce moment-là, ça a été merveilleux parce que d'une seconde à l'autre, mon chemin de vie, il a changé.
Si ta vie était un film, qui ou quoi serait le méchant de l'histoire ?
Ben, c'est moi. C'est sûr, d'ailleurs. J'ai écrit une chanson qui s'appelle « Je suis mon pire ennemi » que j'ai encore jamais sortie. Je l'ai écrite quand j'avais 18 ans, je crois. 17 ans. Et je suis convaincue qu'on est aussi son pire ennemi et qu'on est aussi le méchant de sa vie. Voilà. Dans mon cas, ça a été très visible quand, avec l'anorexie, j'ai compris que le démon, il était en moi. Et je l'ai souvent personnifié comme la petite fille que j'étais, de 5 ans, qui me regardait et qui me disait « Non, tu ne peux pas me quitter, tu dois rester une petite fille parce que tu ne peux pas m'abandonner. » Et ensuite, qui a gouverné mes choix. Voilà, après, on en veut toujours. On peut évidemment en vouloir à plein d'autres et tout ça. Et je ne manque pas de le faire à des moments. Mais en fait, je crois qu'on est quand même maître de son bateau, de son navire, ça on dit un navire, et que quand ça se passe pas exactement comme on l'aurait voulu et tout ça, en vrai c'est parce que souvent on n'a pas osé dire non, ou alors on n'a pas osé s'affranchir de certains obstacles ou certains, qu'en dira-t-on, ou enfin plein de choses. Donc ouais, je pense que le méchant ça reste aussi moi.
Si ta vie était un film, après quoi tu cours, quel est ton but?
Alors, ça reste des choses vagues, quand même, les réponses que je vais donner. Et surtout, ça reste des questions qui m'animent encore, et heureusement. Mais j'ai l'impression de courir vers une forme de liberté qui est simple. Et que mon but, c'est juste de pouvoir être au contact d'une certaine vérité dans la vie. Une authenticité qui me permet de ressentir tous les jours des choses. Ça, c'est vraiment le plus beau. Je dirais même pas que c'est... mon but, c'est pas d'être que épanouie, en fait. Parce que je trouve qu'il y a trop de belles choses aussi à être complexe, en fait. Voilà. Donc, mais ce que je capte, en revanche, c'est que parfois, on perd ça parce qu'on est... on est trop confortablement installé dans sa zone de confort et tout ça, et qu'on n'est plus au contact de ces sensations qui sont si humaines et celles pour lesquelles on se réveille le matin et qu'on a envie d'aller embrasser et d'aller vivre, qu'elles soient évidemment bonnes ou mauvaises, parce que parfois c'est pas toujours facile, mais voilà, j'aimerais pouvoir toujours préserver ça.
Merci pour le film de ta vie. quelle est la victoire ou l'accomplissement qui te rend la plus fière ?
Je sais pas, peut-être le fait de voir qu'aujourd'hui des chansons que j'ai composées un petit peu par hasard, et enfin pas par hasard mais en tout cas pour moi, ou parce que je pouvais pas faire autrement à un moment donné, sont écoutées des milliers de fois par jour par plein de gens que je connais pas, et ça c'est un truc où je me dis que c'est un accomplissement en soi qui, moi, me procure tellement de bonnes choses et de bonnes ondes et me fait déjà beaucoup de bien, que ouais, je crois que c'est ça surtout. C'est ce fait de réaliser ça et de me permettre de penser que du coup, il y a un chemin quand même qui s'accomplit petit à petit.
Est-ce qu'il y a une critique ou un reproche que tu es fière d'avoir reçu ?
Je crois que le reproche qui m'a vachement marquée, c'est quand j'étais toute petite, enfin j'avais 9 ans, et c'était ma nounou de l'époque, et elle m'a dit que j'étais susceptible. C'était un drame. Ah ouais, ça a été un drame, je me souviens très bien, parce que je l'adorais. Ça m'a vachement saoulée, parce que j'avais dit à ma mère, mais tu te rends compte, elle m'a dit ça, mais moi je suis pas susceptible, enfin ça va pas... Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai vraiment ressenti très fort et tout, ça m'a beaucoup questionnée. Et je crois que ça m'a permis de travailler dessus, en fait, parce que si ça m'a autant questionnée, c'est que quelque part, c'était certainement vrai. Voilà. Donc, je pense que... Et du coup, ça m'a permis de travailler dessus, de comprendre que, bah non, en fait... Enfin, oui, certainement, on pouvait rien me dire. Il y avait un truc comme ça où je voulais toujours avoir cette... Vendre ce truc un peu parfait et tout. Donc, ça a été une première... voilà, c'est peut-être des choses comme ça qui m'ont permis ensuite d'écrire ce texte dont je parlais à 13 ans, où je parle de mensonges, quoi. Voilà.
Merci beaucoup. On arrive dans la toute dernière partie de l'interview. On est chez toi, il y a des travaux, je précise, parce que c'est... Les gens ont l'habitude maintenant, je suis toujours chez des gens, ouais. Et il y a toujours une petite ambiance sonore, une fois c'est un chat surexcité, une fois c'est les travaux, voilà, c'est la vie. N'y prêtons pas attention. Dans cette dernière partie, je vais te proposer une série de questions en te demandant de choisir A ou B. Alors évidemment, on est tous un peu entre les deux, je sais, essaie de choisir quand même. T'as le droit de striker une question si t'as pas envie de répondre, tu te reconnais pas du tout, mais je préférerais que tu m'expliques pourquoi c'est pas possible de répondre à ça. Ok ?
Ok, vas-y.
Allez. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt optimiste ou pessimiste ?
Optimiste.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt anxieuse ou détendue ?
Anxieuse.
En général, dans la vie, tu es plutôt nostalgique du passé ou excitée par l'inconnu de l'avenir ?
Ah bah franchement, je suis les deux. En tout cas, je suis un carrefour où je vais plus vers la deuxième option.
Ouais.
Mais en fait, je trouve une forme de grande beauté dans la nostalgie, donc j'aime bien la nostalgie en vrai. Et l'excitation vers l'inconnu, c'est un truc que j'ai jamais connu à l'époque parce qu'il m'était impossible de flirter avec l'imprévu et tout ça. J'avais vachement de mal. Et puis maintenant, je trouve quelque chose de génial là-dedans, justement. Donc, je suis entre les deux.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt amatrice des foules ou des moments de solitude ?
Ben, les deux aussi.
qu'est-ce que tu retires ? Qu'est-ce que tu aimes dans l'un et dans l'autre ?
En fait, j'aime bien être avec plein de monde, mais que parce que j'ai des moments de solitude, en fait. Donc, c'est classique, hein, se répondre ça.
Non, en fait, non, c'est pour ça que j'ai designé cette série de questions. Mm-hmm. C'est pour permettre à celles qui nous écoutent, mm-hmm. Après t'avoir écouté pendant un peu plus d'une heure, de se retrouver un peu dans ce micro-portrait et de se dire « Ah, mais donc c'est possible d'être quelqu'un d'anxieux, mais d'aimer la foule,
ouais.
Ou d'être quelqu'un qui a 1000 idées à la minute
et
d'avoir besoin de solitude. » Enfin, ça, c'est un peu un portrait robot qui permet de normaliser plein de sentiments où tu te dis « Je suis la seule à être bizarre. » Alors qu'en fait, non, on est tous bizarres.
Oui. On est tous contradictoires, ça qui est bien.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt team profiter de la vie ou travailler maintenant pour profiter demain ?
Alors, j'ai été très 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 longtemps travailler maintenant pour profiter demain. Trop, de manière à outrance et donc de manière destructrice, enfin contre-productive en tout cas. Maintenant, je considère qu'il faut justement profiter de la vie parce qu'on travaillera beaucoup mieux. Voilà. Ça, c'est très important. Et profiter de la vie, finalement, c'est travailler et s'accomplir.
Je suis bien d'accord avec ça. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt confiante ou prudente ?
J'ai l'impression quand même que je suis plutôt confiante, mais je suis criblée de doutes. Donc, alors prudente, je sais pas. Je crois pas que je sois très prudente. Moi, j'aime bien le danger et tout, mais confiante, mais pas tous les jours, quoi. Et pas toutes les heures.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt organisée ou bordélique ?
Alors, je suis plutôt organisée, mais j'ai un peu de mal à gérer le... En tout cas, sur un plan matériel et tout, je suis plutôt organisée. Mais dans ma tête, je suis organisée, mais j'ai un peu de mal avec la notion du temps.
Je crois que tu viens de décrire ce que c'est le concept d'artiste. Plutôt organisée, mais dans la tête, c'est le bordel.
Ouais, voilà. Alors, ça reste assez clair, hein, tu vois, parce que finalement... Je suis carrée, et puis moi j'adore les maths, j'étais très matheuse et tout. Mais voilà, tu vois.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt perfectionniste ou pragmatique ?
Alors, attends, pragmatique, qu'est-ce que t'entends par rapport à perfectionnisme ?
Alors, en réalité, dans cette formulation, je les oppose un peu, parce que perfectionniste, c'est un peu l'idée de... beaucoup de préparation d'amont parce que tu vises un objectif et c'est ça qui compte.
Okay.
Pragmatique, c'est beaucoup plus, même si l'objectif est mal défini, ce qui compte, c'est de faire. Dans le premier cas, tu es plutôt dans la recherche de d'abord bien visualiser, oui, bien anticiper, avec une vraie rigueur exigence là-dessus. Et dans le pragmatisme, on est plutôt sur, de toute façon, la perfection est un leurre, donc je fais...
Je suis complètement pragmatique. Mais complètement. tout ce que je fais, c'est un peu du système D, du bricolage... Et j'ai pas de problème avec ça, je me sens pas illégitime pour ça. Je pense que plus jeune, j'étais peut-être plus perfectionniste. Mais parce que de toute façon, le moment où je dis c'est fini, enfin genre je mets un point final, je considère quand même que j'ai eu une certaine exigence avant de le mettre. Donc voilà, mais je suis complètement pragmatique et au contraire, plus c'était pas classique dans la façon de procéder, plus ça me plaît. Hein.
Laurie Darmon, merci beaucoup. Pour tout
merci
ce temps et pour tes réponses. Où est-ce que j'envoie tous les gens qui, complètement séduits par cette interview, vont vouloir ne plus rien rater de tes projets
et à partir de maintenant ? Tu les envoies tous chez moi.
Justement. Non. Où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Sur mes réseaux sociaux, donc sur, voilà, tapant Laurie Darmon sur Instagram, Facebook, sur YouTube et sur toutes les plateformes, pareil, en tapant Laurie Darmon.
Un nouvel album qui va sortir ?
Exactement. J'ai un album qui sort le 6 mars qui s'appelle Femme Studio. Et je serai en concert en France pendant l'été. Et sinon, à Paris, j'ai pas encore de date précisément définie, mais ça ne saura tarder.
Eh bien, rendez-vous sur tes réseaux sociaux, du coup, voilà. Pour ne pas passer à côté de l'info. Moi, en tout cas, j'ai hâte de pouvoir venir te découvrir sur scène, maintenant que je fais tous mes trajets en métro avec tes chansons dans les oreilles et que je pleure à chaudes larmes dans le RER.
Mais je suis tellement désolée pour ça.
ça fait un bien fou, en réalité.
Ah, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci Clémence.
Merci pour votre écoute. Je vous invite à retrouver Laurie Darmon sur ses réseaux sociaux et à aller adoucir votre confinement par l'écoute de ses albums, dont le nouveau, sorti le 6 mars 2020, Femme Studio. À très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. Les Impertinentes est un podcast d'interview parcours portrait réalisé par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur les flux de Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes. Vous pouvez interagir avec moi sur Instagram à travers le compte @conquérir.le.monde ou sur mon compte @clem_podoc. Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon, c'est www.patreon.com/clembodoc. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en le partageant autour de vous, en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire positif. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci beaucoup pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à très vite.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.